Aujourd'hui, deuxième rendez-vous du cycle « Les îles laboratoires » organisé par l'IRD, Institut Recherche et Développement, et la Bibliothèque de l'Alcazar. Pour le jour, c'est le géographe Gilbert David qui nous parle des îles de pêche et des pêcheurs des îles pacifiques.
Donc on va se translater dans les îles océaniennes. Alors, je vais faire une présentation en quatre points qui sont assez classiques. Je vais d'abord vous présenter des îles. Voilà. Après, on va parler de pêche. On va commencer par tout le début, la pêche à l'époque précoloniale. Ensuite, on va voir comment on passe de la pêche vivrière à la pêche artisanale. Et ensuite, on va faire une petite focalisation sur la pêche thonnière et les conséquences de la mise en place des zones économiques exclusives. Mais d'abord, le cadre géographique des îles. Alors, ce qu'il faut retenir principalement, c'est qu'on est dans un espace qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Rien que dans la Polynésie française, vous pouvez mettre l'Europe, de Brest à Moscou. Donc, vous voyez, on est dans un cadre qui est totalement différent de ce que l'on connaît. Vous voyez, les îles Cook, 237 km², 15 800 habitants, et près de 2 millions de km² de zones économiques exclusives autour. Vous voyez qu'on est dans des États qui sont tout petits, certains. On a même plus petits. Vous avez tous entendu parler de Tuvalu, vous savez, le fameux archipel qui est en train de se faire noyer, là, dans le cadre du changement climatique, 26 km². Je ne connais pas la taille de Marseille, mais ça ne doit pas être tellement plus petit. Vous avez 11 200 habitants. Je pense que dans un arrondissement de Marseille, vous avez nettement bien plus de monde. Et vous avez 900 000 km² de zones économiques exclusives autour. Funafuti, la capitale de Tuvalu, ça doit faire à tout casser 2-3 000 habitants. Vous voyez, c'est bien parce que quand vous êtes originaire de ce coin-là, vous avez toutes les chances que votre famille soit ministre. Enfin, vous avez quelqu'un ministre dans votre famille. C'est obligatoire. C'est statistique. Donc, alors maintenant, ce qui est important, c'est qu'on a une grande diversité de formes d'îles. Rares sont les îles qui sont des morceaux de continent. La plupart des îles sont donc des îles volcaniques au départ. En gros, toutes les îles viennent de volcans. Et ces volcans se déplacent au gré de la tectonique des plaques. Et donc, plus ils s'éloignent de l'endroit où ils sont nés, plus l'île va s'éroder. Ça nous fait une île haute. Après, une île haute, un lagon, le lagon se creuse. Donc, quand vous avez un lagon, ça veut dire que l'île est plus ancienne que l'île haute, classique. Et vous avez ensuite des atolls soulevés. Voilà, ça, ce sont les 4 ou 5 formes d'îles que l'on trouve couramment dans le Pacifique. Alors, ce qui est important, c'est que chacune de ces formes d'îles conditionne l'accès à la mer des pêcheurs et surtout leurs conditions de travail sur les lieux de pêche. Souvenez-vous de l'île volcanique. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de port. On est exposé aux houles. C'est extrêmement hostile pour la pêche. Ce qui est important de voir, c'est qu'une bonne île pour la pêche, c'est une île qui possède une diversité maximale de paysages. Parce que ces paysages sont des habitats pour les poissons. Alors, il faut avoir des récifs. Si possible, des mangroves. Alors, qu'est-ce que c'est les mangroves? Les mangroves, c'est le seul exemple de forêt maritime qui existe au monde. Hein, ce sont des arbres qui ont la capacité de pousser dans l'eau douce. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Dans l'eau de mer. Ces arbres-là sont importants parce qu'ils servent de nourricerie. C'est-à-dire qu'il y a des poissons qui viennent pondre. Dans ces zones-là, il y a des larves qui se développent. C'est des zones extrêmement riches. Donc, quand vous avez un récif et une mangrove, vous avez plus de richesse que si vous avez un récif tout seul. Pour que ça soit bien aussi, ça serait bien d'avoir des herbiers. Les herbiers, ici, en Méditerranée, vous connaissez tous, Posidonie, eh bien, vous avez l'équivalent dans le Pacifique. Alors, quand vous avez une île avec un lagon, une mangrove et des herbiers, ça, c'est bien. Et mieux encore, si possible, une embouchure de rivière. Parce qu'à travers les embouchures de rivière, vous avez de l'eau douce qui arrive chargée en sel nutritif du fait du ruissellement sur les bassins versants. Et aux embouchures de rivière, vous allez avoir des espèces particulières comme les mulets. Donc, si vous avez tout ça dans votre île, vous êtes dans une bonne île pour la pêche. Si vous n'en avez qu'un, vous pouvez faire affaire, mais ce n'est pas bien. Et si vous n'avez ni récif, ni mangrove, ni herbier, ni embouchure de rivière, là, ce n'est pas extraordinaire pour réussir votre vie de pêcheur. Maintenant, la pêche à la période précoloniale. Alors, je vous ai mis là ce qu'on appelle un pandanus. Un pandanus, c'est un arbre qui est un arbre de vie. C'est un arbre de vie parce qu'il donne du tissu. Les gens faisaient des jupes avec ça, les gens font également des voiles, des tableaux, enfin bref. Alors ce pandanus-là est un arbre particulièrement intéressant. Alors j'ai préféré mettre ça plutôt qu'autre chose, et on va voir que cette civilisation précoloniale est d'abord une civilisation de la pierre. Voilà. Ça, c'est une des premières formes de pêche que l'on puisse trouver dans le Pacifique, comme dans bien d'autres endroits. Ça va vous rappeler quelque chose, vous les Méditerranéens, c'est une sorte de madrague. Vous voyez, ce sont des blocs de coraux que l'on va chercher sur le récif et que l'on va donc entasser sous forme de murets qui vont faire un canal. Et ce canal-là va déboucher sur une espèce de poche, une chambre, dans laquelle le poisson va se concentrer à marée descendante. Alors après, pour attraper le poisson, vous avez plusieurs techniques. Vous pouvez l'attraper à la main, si vous êtes particulièrement doué. Si vous avez un filet, vous le pêchez au filet. Mais autrefois, les gens n'avaient pas de filet, donc ils pouvaient utiliser des poisons végétaux. Vous avez des poisons, vous avez des arbres qui s'appellent des Barringtonia, qui ont des petits fruits, et ces petits fruits-là, vous les râpez et vous les jetez dans l'eau. Ça va estourbir vos poissons, comme ça, vous les ramassez. Ça, c'est la première forme de pêche que l'on puisse trouver. C'est la forme la plus primitive, si on veut. Donc, civilisation de la pierre pour la pêche. Ensuite, civilisation de la nacre. Les trocas, ça vous dit peut-être pas grand-chose, sont des coquillages qui font les boutons. Et donc, ces coquillages nacriers-là vont pouvoir être façonnés pour faire des hameçons. Alors, il y en a qui sont plus ou moins efficaces, qui sont plus ou moins grossiers. Mais vous voyez, au début, les premiers hameçons sont des hameçons de nacre. Vous avez ici également là une forme un peu plus élaborée. Vous avez un hameçon et vous avez une ligne. Alors la ligne là est faite avec des fils de tapa. Vous voyez, des fils de pandanus. Oui, voilà. Donc vous voyez, entre le végétal et la nacre, on a aussi des hameçons en bois. Hein, on peut commencer à avoir des choses intéressantes. Alors évidemment, ça c'est pas tout à fait efficace pour les petits poissons. C'est efficace surtout pour les gros poissons. Mais dites-vous qu'à l'époque précoloniale, il n'y avait pas forcément énormément de monde au bord de mer, et donc on pouvait des gros poissons. Il n'y avait pas extrêmement de monde en bord de mer, tout simplement, sauf dans quelques endroits. Parce que, bon, j'ouvre une parenthèse, il y a un des grands fléaux de la côte dans le Pacifique qui s'appelle le paludisme. Et quand vous faites en dehors de la pêche, quand vous voulez manger, vous allez avoir des cultures. Vous allez faire des cultures de taro et d'igname, qui sont des tubercules. Notamment, pour avoir du taro, vous faites du taro irrigué. Imaginez de faire du riz, sauf qu'à la place de mettre du riz, vous mettez une espèce de pomme de terre particulière. Et quand vous avez de l'irrigation, eh bien vous pouvez avoir des moustiques. Et quand vous avez trop de monde, vous avez trop de zones irriguées, et vous avez des moustiques qui attaquent. Et donc, les archéologues se sont aperçus que là, il y avait trop de monde sur la côte. Quand il y avait des grandes épidémies de malaria, les gens partaient à l'intérieur. Donc on a de fait une espèce de régulation, si vous voulez, des pêcheurs à la côte par la malaria. Sauf dans quelques endroits exceptionnels, comme la Nouvelle-Calédonie, où il n'y a jamais eu de paludisme. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont de la chance. C'est également la civilisation du végétal. Donc je vous ai montré le pandanus. Vous avez aussi le cocotier. Le cocotier, ça sert à quoi? Ben, on peut faire des filets avec les feuilles de cocotier, des filets collectifs. Alors on tresse les palmes de cocotier et on se fait un grand filet. Et puis les gens avancent dans une baie et piègent les poissons qui sont poussés par les pêcheurs et le filet jusqu'à la plage. Et donc aussi, c'est avec le végétal qu'on fait les pirogues, des pirogues qui sont en bois. On appelle ça des pirogues monoxyles. Donc c'est avec ça que les gens vont pêcher. Vous remarquerez qu'on ne va pas très loin avec ça. Ça veut dire que la pêche se limite à la zone côtière. Vous avez des plus grandes pirogues en Micronésie et en Polynésie, mais c'était des pirogues qui servaient à déplacer les populations. Vous savez, les Polynésiens sont des migrateurs. Les Polynésiens ont commencé leur migration en Chine. Ça fait bien longtemps. Ils ont conquis petit à petit, ils sont passés par l'Indonésie et sont allés jusqu'à l'île de Pâques, sur des grandes pirogues qui faisaient une quarantaine de mètres et dans lesquelles les gens mettaient des taros, des ignames, des animaux utiles, le cochon, le rat. Pas le rat d'ici, hein. Un rat spécial, c'est pratique un rat. Quand vous arrivez dans une île, vous lâchez le rat, il se reproduit et vous avez à manger au bout de 3 mois. C'est bien. Hein. Alors, civilisation des échanges et de la complexité sociale. Waouh, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Alors voilà. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que de la taille de l'île va dépendre un peu le modèle d'occupation de l'espace et de bien des relations sociales qui vont avec. Alors là, je vous ai fait un modèle très simple. Ça, c'est le modèle mélanésien. Ce sont des grandes îles. Et ça, c'est le modèle polynésien des petites îles. Alors, ça veut dire quoi? Quand vous êtes dans une petite île, eh bien, quand vous arrivez à plusieurs, vous avez plusieurs pirogues, vous avez tout intérêt à vous découper le territoire en tranches de cake. Ça veut dire que vous allez avoir dans votre territoire à la fois un bord de mer, à la fois une zone basse et une zone montagneuse. Voilà, c'est en tranches de cake. Vous avez donc tous les biotopes, tous les habitats possibles pour asseoir votre viabilité d'insulaire. Quand vous êtes dans une grande île, vous ne pouvez pas faire ça. C'est trop grand. Alors au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des gens qui vont aller à l'intérieur des terres. Ça va être les hommes de l'intérieur des terres. Et vous allez avoir des gens au bord de mer. Et comme les gens aiment bien... Vous savez, dans une île, le plus grand danger, c'est de s'ennuyer. J'exagère pas en disant ça. Hein. Donc les insulaires ont imaginé ce qu'on appelle un jeu social d'une complexité extraordinaire. On pourrait, quand j'habite là, demander aux gens, tiens, je voudrais aller à la pêche, si vous voulez, et s'il vous plaît, messieurs du bord de mer, je voudrais avoir un accès et je viens pêcher là. Ça se fait, ça. Mais pour faire ça, ça veut dire qu'il faut palabrer, il faut aller discuter, etc. Mais le mieux, en fin de compte, c'est de ne pas aller à la pêche. Vous n'allez jamais à la pêche. Par contre, quand vous voulez du poisson, vous allez demander aux gens qui sont ici d'aller pêcher pour vous. Vous allez demander, tiens, j'ai besoin de tortue parce que je fais une fête, allez me chercher de la tortue. Ils vont chercher de la tortue, et en échange de la tortue, vous leur donnez du taro, des ignames, etc. Vous voyez, là, on a déjà, au lieu d'avoir un échange simple, je vais au marché, eh bien non, je vais créer une fête et de la complexité. Quand on est dans un atoll, ça, c'est tout à fait différent. Là, on habite sur les endroits qui sont d'espace terrestre, les motus, voilà. Donc vous voyez, on a une segmentation de l'espace entre les gens du bord de mer et les gens de l'intérieur des terres. Et quand on habite tout ici, ben, on peut même trouver une autre segmentation, complexité. Il y a certains groupes qui auront le droit de pêcher, on appelle ça des clans pêcheurs, et d'autres groupes qui n'auront pas le droit, même si tout le monde habite au bord de mer. Comme ça, ça permet aux gens qui sont le clan pêcheur d'offrir la pêche ou d'avoir des relations d'échange avec les autres. Vous voyez, donc la pêche est aussi l'objet d'un ferment de relations sociales. Et ça, c'est particulièrement important. Alors maintenant, on va passer de la pêche vivrière à la pêche artisanale. Bon, j'ai pris l'exemple de la Polynésie parce qu'en Polynésie, on a encore beaucoup de parcs à poissons qui sont hérités de la période coloniale. Donc le parc à poissons, c'est très très intéressant parce que ça stocke du poisson. Quand vous voulez aller à la pêche, inutile d'aller par Monts et par Vaux. Vous allez dans votre parc à poissons, vous utilisez un filet, un épervier, vous ramassez votre poisson et vous allez le vendre. Après, bon, il faut bien voir que l'arrivée de nouvelles technologies, notamment le fer qui a permis de faire des hameçons, le nylon qui a permis d'avoir des lignes plus efficaces et des filets plus efficaces. Alors ce qui est important, c'est que ça a pu augmenter la diversité des lieux de pêche et des espèces cibles. Alors, il y a un problème. Dans le Pacifique, c'est pas comme ici. Ici, quand vous avez un hectare de mer, on dirait vous trouverez 15 espèces de poissons. Et pour chaque espèce de poisson, vous en aurez de grandes quantités. Dans le Pacifique, vous n'avez pas 15 espèces de poissons. Vous avez 200 espèces de poissons, mais en toute petite quantité. Ça veut dire que si vous voulez prendre une espèce cible, il n'y aura peut-être pas dans votre après-midi suffisamment de poissons pour nourrir votre famille. Donc il va falloir cibler plusieurs espèces cibles. Et ce n'est pas forcé que pour cibler plusieurs espèces cibles, vous pouviez utiliser le même engin de pêche. Donc plus vous avez d'engins de pêche, mieux c'est. Et plus vous avez des lieux de pêche différents, mieux c'est aussi. Imaginez qu'il ne fasse pas beau. Vous commencez votre journée, il fait beau. Vous allez sur le récif, il ne fait pas beau. Vous partez, vous allez dans la mangrove. Vous saurez que dans la mangrove, vous aurez aussi la capacité de trouver ou du poisson et des crabes. Donc, ce qui est important, c'est que les gens, on a une grande diversité d'engins de capture. On a, et aussi, une polyactivité des pêcheurs. Donc, les gens pêchent un grand nombre d'espèces et vous n'avez jamais de gens qui sont pêcheurs à temps complet, sauf les clans pêcheurs. Tous les pêcheurs sont des gens qui sont agriculteurs. Ça, c'est une règle générale dans le Pacifique. Tout le monde est polyactif. Quand les États sont devenus indépendants dans les années 75, ils se sont rendus compte... Bon, je vous parlerai tout à l'heure de la loi sur le droit de la mer, mais déjà, à l'époque, on parlait de mettre en place des zones économiques exclusives. Et donc, ces petits États indépendants se sont dit, voilà, on a là une des ressources importantes qu'il faut mettre en exploitation. Jusqu'à présent, les gens se cantonnaient sur les petits récifs. Il y a des endroits qu'il va falloir exploiter et qui sont éloignés. Donc, allons-y, créons une pêche artisanale. Donc, premier objectif, exploiter de nouveaux espaces. Vous voyez ici, ça, c'est la capitale, enfin, c'est l'île principale du Vanuatu. Je vous ai mis ici, en blanc, 0 à 100 mètres. Les gens n'allaient même pas là. Les gens allaient entre 0 et 30 mètres. Rares, les gens allaient sur les fonds de 100 mètres. Là, il faut exploiter des fonds de 100 à 500 mètres. 1000, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut. Exploiter les fonds de 100 et 500 mètres, vous allez le voir, ça va se faire avec une pêche profonde. Les fonds de 1000 mètres, ça va se faire en posant des radeaux pour attraper des thons. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, matériel de capture nouveau, parce qu'en effet, voilà, ça c'est un bateau de pêche, un catamaran. Ça, c'est des bateaux qui n'ont jamais navigué dans les eaux du Pacifique. Ça, c'est des créations de la FAO, c'est des bateaux nouveaux. Voilà, ça c'est un moulinet. Au début, on a fait ça avec des pédaliers à bicyclette. Ça sert à quoi? Ça sert à remonter une ligne. Quand vous avez un poisson que vous pêchez à 600 mètres de fond et qui fait 30 kg, si vous le remontez à bout de bras, c'est un petit peu difficile. Il faut avoir une manivelle pour remonter. Voilà. Donc on a commencé à faire ça avec des pédaliers à bicyclette et ça a été amélioré. Et c'est ce genre de choses qui vous permet de faire de la pêche de fond. Les vivanos sont des poissons profonds qui vivent entre 100 et 800 mètres de fond. Ils sont intéressants parce qu'ils sont exempts de ichthyosarcotoxisme. C'est un nom épouvantable. Ça veut dire, en gros, le langage commun s'appelle la gratte. La gratte, c'est quoi? La gratte, c'est une maladie qui vient du fait que vous allez être empoisonné en mangeant la chair de votre poisson parce que votre poisson a accumulé des toxines. Donc, tous les poissons de récif peuvent avoir la gratte. Parce que ce sont des dinoflagellés, des toutes petites algues qui vivent en surface ou en faible profondeur, qui sont consommées. Quand vous vivez à 500 mètres de fond, il n'y a pas de lumière. Donc il n'y a pas ces petites algues-là. Donc à partir de 75 mètres, vous êtes tranquille, vous n'avez pas d'ichthyosarcotoxisme. D'où l'intérêt de pêcher ces poissons-là pour développer une pêche commerciale. Les grands pélagiques. Alors voilà, les grands pélagiques, ça c'était des poissons qui étaient pêchés de manière assez exceptionnelle, parce que quand vous êtes sur une pirogue, pour pêcher un thon, il faut y aller, il faut ramer. Donc il faut si possible avoir un moteur. Alors là, vous avez de superbes bonites, Catsuvonus pelamis pour leur petit nom. Et ici, vous avez des coryphènes. Alors le gros problème de ces poissons-là, c'est qu'ils se promènent beaucoup. Alors si vous avez une barque et que vous avez un moteur, vous pouvez passer une après-midi entière à les chercher, vous n'en trouverez pas forcément. D'où l'idée de mettre ce que j'ai appelé un DCP, un dispositif de concentration de poissons. C'est quoi ça? C'est un radeau que l'on va mouiller à entre 800 et 1000 mètres de fond. C'est quelque chose qui fait la taille de mon bureau, vous voyez même pas, hein, qui va être en surface et qui va être donc raccordé au fond par un grand bout, une corde, et qui a la capacité d'attirer le poisson. Vous, les poissons qui vivez sur l'ensemble de Marseille, eh bien, vous allez venir autour de l'Alcazar parce que vous avez un DCP. Et moi, si je suus un pêcheur, au lieu d'aller aux îles du Frioul où je sais que j'aurai peu de chances de trouver du poisson, eh bien, je vais venir à l'Alcazar parce qu'à l'Alcazar, je sais qu'il y aura des poissons qui seront agrégés. Donc ça va évidemment permettre de faire de grandes économies en temps de trajet, en essence, etc. Voilà. Alors, la CPS, c'est la Commission pour le Pacifique Sud, qui est l'organisme basé à Nouméa et qui a été en charge de ce développement halieutique. Et donc, ils ont essayé, partout dans le Pacifique, dans tous les pays, de développer la pêche profonde et les DCP. Ça a été vraiment le leitmotiv, partant du principe que la petite pêche vivrière de poissons coralliens n'était pas tellement efficace et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire là-dessus. Alors, j'ai mis là une question, comment transformer en professionnel des pêcheurs vivriers? Ça, c'était un vrai problème. Donc, je vais vous donner on peut se donner 5-10 minutes pour parler un peu de heures et malheurs du développement de la pêche artisanale. Bon, moi, j'ai travaillé au service des pêches au Vanuatu dans les années de 83 à 86 et ensuite de 88 à 91. Donc j'ai assez bien vécu cette affaire-là. Et donc on a été surpris un jour parce qu'on s'est aperçu que c'était pas si facile de développer la pêche. On partait du principe que pour développer la pêche, on va prendre des pêcheurs vivriers qui sont performants. D'accord ? Ce sont des bons pêcheurs. On va prendre le bon pêcheur et on va l'aider. On va lui donner des sous, on lui fait un don, on va lui faire un prêt pour qu'il achète un bateau, pour qu'il achète du matériel de pêche. On va lui mettre une assistance technique. Et à partir de là, à partir du moment où on a mis du capital financier et du capital technique, on espère qu'il va devenir pêcheur professionnel. Et s'il est pêcheur professionnel, puisqu'on l'aura bien aidé, il va réussir dans sa pêche. Et puisqu'il aura réussi dans sa pêche, eh bien, on suppute que ses voisins du village vont se dire « Tiens, ce gars-là, il a réussi, c'est bien, je vais faire pareil. » Et donc, vous voyez, c'est un peu la notion du leader, que ça a été inventé par des Américains, des sociologues américains dans les années 50. Et tout le développement est un peu basé là-dessus. On considère qu'on va former des leaders. Moi, j'appelle ça le modèle de l'entonnoir. Et vous avez un entonnoir, vous prenez des gens qui sont pêcheurs vivriers ou agriculteurs, hein, c'est le même système. Hein. Vous le mettez dans haut de l'entonnoir et puis vous régulez votre entonnoir en mettant un peu de sous et un peu de capital technique, un peu d'aide. Et puis au bas de votre entonnoir, il vous sort un pêcheur professionnel ou un agriculteur professionnel. Eh bien, ça ne marche pas bien. Pourquoi on s'est aperçu que ça ne marchait pas bien ? Ben, on s'est aperçu que ça ne marchait pas bien quand les gens qui étaient les meilleurs ont commencé à se faire brûler leur pirogue. Alors on s'est dit, tiens, il y a un os. Alors il y a un os, bon, il y a plusieurs difficultés, mais une des difficultés importantes, c'est tout simplement que ce modèle du leader, c'est un modèle qui est fondé sur un concept qui est occidental, que la rationalité de tout individu, votre rationalité, la mienne, est fondée sur le fait qu'on va essayer d'avoir le maximum d'argent dans notre vie et que cet argent va nous permettre d'avoir la promotion sociale. Prenez les exemples de joueurs de foot, c'est le plus bel exemple qu'on puisse trouver. Sauf que toutes les sociétés ne fonctionnent pas comme ça. Parce que là, vous êtes dans une société, quand on stipule ça, hein, quand on considère que l'argent est un promoteur de l'ascension sociale, eh bien on est dans un modèle d'homme qui est basé sur l'individualisme des gens. Or, ces sociétés-là ont une réflexion qui est collective. La personne n'est pas un individu, la personne appartient à un groupe, et ce groupe appartient à un lieu. C'est un peu... Les Kanaks en Calédonie disent « on est de la terre ». En Polynésie, le mot placenta et le mot maison, c'est la même chose, et quand quelqu'un naît, on va enterrer le placenta à l'endroit de la maison. On est accroché à la terre. Et donc les gens réfléchissent de manière collective. Donc si vous gagnez des sous en pêchant, il faut absolument que cette activité-là puisse être redistribuée, que les bénéfices puissent être redistribués à la collectivité. C'est pour ça que quand vous avez un tas de trucs pour essayer de gommer la mauvaise fonction de l'argent qui est d'ascenseur social. Le meilleur moyen, c'est de redistribuer, par exemple, en mettant de l'argent dans les églises, en faisant des grands mariages, des choses comme ça, vous voyez. Vous faites un grand, grand mariage, donc vous dépensez tous vos sous. Et comme ça, c'est bien. Parce qu'en plus, en déposant vos sous, vous allez accumuler du prestige. Donc ça, c'est parfait. C'est la logique de la société, ça. Hein. On n'est pas du tout sur l'accumulation monétaire. L'accumulation monétaire sert surtout à être dépensée. Vous savez, moi, je rêve que Thierry Henry ou Zidane, il arrive au pied de sa cité, il prenne sa Maserati, il fout le feu dedans et dise « Voilà, moi, je suis vraiment quelqu'un de bien. Je peux cramer ma Maserati. » Et les gens vont dire « Bravo, 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 vous avez vraiment du prestige. » Malheureusement, vous ne le verrez pas ici, mais c'est cette mentalité-là qu'on a dans le Pacifique, mais dans beaucoup d'autres endroits. Premier problème, donc, le modèle de développement ne colle pas véritablement avec les réalités. Ensuite, un autre problème, c'est que quand vous pêchez du poisson dans une toute petite île, il faut que les gens puissent l'acheter. Pour acheter du poisson, il faut avoir des sous. Et pour qu'il y ait des sous, eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose à vendre et un marché pour acheter. Or, si vous habitez une toute petite île et que le marché de consommation se trouve à 500 km de là, eh bien, vous n'avez pas 36 solutions. Soit vous avez un bateau. Alors ça, c'est le système polynésien. Vous vous souvenez, les parcs à poissons, là, en Polynésie, vous avez ce qu'on appelle une goélette. Une goélette, même si c'est pas maintenant... Avant, c'était des bateaux à voile. Maintenant, ce sont des bateaux modernes avec des glacières qui font le tour des parcs à poissons. Et donc, quand les gens savent que la goélette vient, ils vont pêcher le poisson, ils le mettent dans la goélette et la goélette part à papette. Ça, ça marche. Au Vanuatu, on n'avait pas ça. On n'avait pas de goélette. Donc, on mettait ça dans des avions. Alors, il fallait avoir une glacière, on mettait du poisson, la glacière, tout ça partait à l'avion. Comme les gens ne sont pas riches, ils n'avaient pas beaucoup de glacières. Donc la glacière, des fois, elle restait dans la capitale. Donc s'il n'y a pas de glacière, il n'y a pas de possibilité de vendre le poisson. Et puis, il fallait, quand vous dépensez de l'argent pour votre glace et pour votre essence, eh bien, c'est de l'argent qui sort de l'île. Mais si les gens n'ont pas la capacité, si vous n'avez pas d'argent qui revient de la capitale en retour, et si les gens dans votre île n'ont pas suffisamment d'argent, ben votre développement des pêches ne peut pas se faire parce que vous n'avez pas de marché. Moi, je connaissais un petit camarade anglais qui habitait dans une île extrêmement lointaine. Lui, il faisait des matchs de foot le dimanche, et tous les dimanches, il faisait un match de foot parce qu'il pensait que, à juste titre, les gens feraient un barbecue. Et donc, dans le barbecue, on ferait du poisson. Et comme c'était la fête, les gens accepteraient de dépenser le peu d'argent qu'ils avaient pour acheter le poisson le jour de la fête. Mais les autres jours, les gens n'avaient pas de sous du tout. Parce que les gens, en fin de compte, leur revenu principal vient du copra, c'est-à-dire des noix de coco. Et les noix de coco, le cours du copra dépend des cyclones aux Philippines. Quand vous avez des cyclones aux Philippines, le cours du copra sur le marché international est élevé. Donc vous vendez beaucoup de copra, vous avez des sous, vous pouvez acheter du poisson. Quand le cours du copra n'est pas bon, vous n'avez pas de sous, vous ne pouvez pas acheter de poisson. Donc ce n'est pas si facile que ça de développer la pêche artisanale. Alors maintenant, on va attaquer la pêche thonnière et l'exploitation des ZEE. Ça a été un gros challenge. On a vu tout à l'heure des petits États qui ont une ZEE qui est parfois donc zone économique exclusive. Ça a été mis en place par les accords dits de Montego Bay en 1982. Et donc ça confère à chaque État un droit de pêche ou d'exploitation de la mer sur un espace de 200 000 marins autour de sa ligne de rivage. Donc normalement, vous n'êtes pas propriétaire de cet État, mais vous êtes usufruitier des ressources qui y sont. Et le droit de la mer vous oblige à les exploiter. Et si vous ne les exploitez pas, vous êtes obligé de laisser les autres les exploiter. Par contre, à charge pour vous de demander des revenus pour cette exploitation. Donc tous les États se sont dit, nous sommes des petits États avec de toutes petites surfaces, 100 km², 1000 km² de surface terrestre, souvent montagneuses. Là, on a des espaces considérables, on va mettre le paquet là-dessus. Il faut donc développer la pêche. Et quelle est la pêche qui se vend le mieux? La pêche thonnière. Alors, allons-y gaiement. Dans le Pacifique, en gros, vous avez là le plus grand réservoir de thon au monde. Vous avez à peu près 50% du thon du monde qui se trouve dans le Pacifique. Et pour certaines espèces, comme la bonite que je vous ai montrée, 70%. Et la bonite, notamment, n'est toujours pas surexploitée. Ce sont des stocks qui peuvent encore être exploités. Vous avez en gros quatre types de thon. Vous avez la bonite, vous avez le thon jaune, vous avez le thon obèse qui vit en profondeur, et vous avez le germon, que vous connaissez un petit peu mieux. Ces ressources-là sont de vrais puits de pétrole, si on peut dire, pour les gens du coin. Alors, les acteurs de la pêche. Eh bien, tout simplement, dans les années 70, les pêcheurs du coin n'étaient pas du tout des gens du Pacifique. C'était des Coréens, des Taïwanais et des Japonais. Ce sont des Asiatiques qui avaient notamment des pêches palangrières. Alors, la palangre, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'est, mais la palangre, c'est une ligne qu'on met au fond, sur des fonds de 200 mètres, et qui va permettre de pêcher du thon profond. Quelle forme de pêche privilégiée quand vous êtes un petit état insulaire? La pêche à la canne, la pêche à la palangre profonde, la pêche à la seine. Allons-y, la pêche à la canne. Alors voilà ce que c'est un canneur. L'astuce, c'est que quand on repère un banc de thon, eh ben on va jeter des sardines autour du bateau. Et pour que les sardines ne partent pas, on va créer de l'agitation, du bouillonnement, ce qui fait que les sardines vont rester autour de votre bateau. Comme les sardines vont rester autour de votre bateau, les thons qui sont autour vont aller manger les sardines. Et là, vous avez les gens avec la canne. Alors la canne, c'est absolument extraordinaire. Il n'y a pas d'amorce sur votre canne, il n'y a rien. Vous avez un hameçon, il n'y a même pas de hardillon. Hein. Vous faites ça, vous attrapez le thon. N'importe comment, vous soulevez. Donc ça, c'est la forme la plus simple de pêcher le thon. Alors, le problème, c'est la disponibilité d'appâts vivants, de vifs. Ça, c'est un gros problème. Les appâts vivants, eh bien, ils sont soumis à la saisonnalité. Quand j'étais ici au Vanuatu, vous voyez, c'est ici, on a essayé de faire de la pêche à la canne. Ça n'a jamais marché, parce qu'on avait des appâts vivants, de la sardine, que l'été. pas l'hiver. Donc ça peut être qu'une pêche saisonnière. Les gens qui ont de l'appât vivant en permanence, c'est les gens qui sont autour de l'équateur. Alors l'eau de pêche maintenant, la pêche à la Seine. Alors là, on tombe dans l'autre technologie. Ça, c'est des bateaux qui font 70 mètres de long, qui souvent, maintenant, certains ont un hélicoptère à bord, hein, et ont un énorme filet. Vous voyez ce filet, là ? Alors, ça marche comment ? Quand vous avez repéré un banc, vous allez avoir un petit bateau qui sort. On appelle ça le skiff. Donc, le bateau tire le filet. L'idée, c'est de faire un grand rond autour du banc de thon. Et c'est un filet qui est un filet tout droit. D'accord ? Et à la base du filet, vous avez une coulisse. Et vous allez tirer sur cette coulisse pour que votre filet de filet droit devienne une grande poche. Hein ? Ici, là, on est en train de haler la poche. Donc, on va ramasser le poisson dans le bout de la Seine. Voilà. Et ça peut vous ramasser comme ça des quantités astronomiques. C'est tellement efficace que, bon, des dernières années, j'étais à La Réunion. Un thonier seineur de Concarneau ou d'Espagne qui opère dans l'océan Indien peut pêcher en une journée ce que toute la pêche artisanale réunionnaise pêche en un an. Seulement, c'est très très cher. Hein ? En coût d'achat, alors dans les années 90, ça coûtait 11 millions de dollars, en gros ça coûtait 3 millions de dollars par an en coût de fonctionnement. Quand vous êtes un tout petit état, c'est extrêmement difficile. La seule conserverie du Pacifique était ici, à Pago Pago, capitale des Samoa américaines. C'est une très très vieille, ça date des années 50. Au Vanuatu, qui s'appelait les Nouvelles Hébrides, dans le nord, vous aviez une base japonaise de transbordement qui servait à la palangre profonde à approvisionner des bateaux de Taïwan qui allaient après vendre au Japon. Vous aviez aussi à Fidji, qui est ici, une petite base thonnière, et au Salomon. C'était tous des bases thonnières qui étaient faites avec les Japonais. C'était un accord entre des investisseurs locaux et des Japonais. Donc quand les pays sont devenus indépendants, ils ont essayé de se mettre d'accord avec les Japonais. Ça n'a pas toujours été le cas. Au Vanuatu, par exemple, l'activité thonnière s'est arrêtée dans les années 85 et n'a pas repris depuis. Alors les gens essayaient de faire eux-mêmes une flottille de pêche, mais ça coûtait très cher et pratiquement tous les pays ont fait faillite. Alors la palangre. Actuellement, si vous allez en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, les gens pêchent à la palangre. Alors ce sont des palangres qui sont des palangres courtes et qui vont cibler des espèces profondes, notamment le thon obèse. Je vous ai dit, la bonite tout à l'heure et le thon jaune sont des animaux que l'on pêche en surface, c'est-à-dire à la canne et à la Seine tournante. Les Seines tournantes profondes peuvent attraper des grands thons jaunes. Les grands thons jaunes font 20-30 kilos. Ceux-là sont déjà dans les 200 mètres de fond. Quand vous tapez entre 300 et 500 mètres de fond, entre 200 et 500 mètres, vous pouvez aussi attraper du thon obèse, qui lui est très chèrement vendu sur le marché japonais et qui va vous faire du 50 kilos, etc. C'est ça que les gens ciblent. En plus, on a la capacité maintenant de faire de l'ultra-congélation, c'est-à-dire que vous congelez votre poisson à moins 60, entre moins 40 et moins 60. S'il n'a passé que quelques heures dans l'eau, et que vous le congelez à moins 40, c'est comme s'il était frais. Et là, vous le vendez à un prix maximum sur le marché japonais. Très, 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 très cher. Donc, évidemment, ça, c'est l'idéal. Tout le monde n'a pas d'ultra-congélation, mais déjà, avoir un palangrier avec une capacité suffisante de marchandises, si vous voulez, pour le vendre congelé, ça vous fait des sous. Alors, que faire du poisson ? Conserve, surgélation, ultra-congélation. La conserverie, c'est compliqué. Les grandes conserveries actuellement dans le monde qui acceptent le poisson du Pacifique ne sont pas dans le Pacifique, c'est en Thaïlande. Les grandes conserveries dans la zone, c'est les conserveries thaïlandaises. Il reste encore une conserverie, donc je vous ai dit à Pago Pago, il y en a un peu à Fidji aussi et un petit peu au Salomon, mais ça ne rapporte pas grand-chose. La surgélation, c'est bien quand on a un marché comme à Tahiti. À Tahiti, vous avez 80% du poisson pêché qui est vendu localement et qui est de bonne qualité. L'ultra-congélation, je vous ai dit, moins 40, moins 60, c'est pour cibler le marché japonais. Ça, si vous avez ça, vous faites beaucoup d'argent. Alors les bases à terre, ports, conserveries, zones de transbordement, tout ça demande de grandes activités. Les gens se sont rendus compte, en fin de compte, dans les petits états du Pacifique, que c'était une utopie d'essayer d'exploiter soi-même son thon. Donc on est passé, c'est pour ça que je vous ai mis de l'utopie à l'économie de rente. En fin de compte, le mieux, c'est de vendre des licences de pêche. parce que là, ça ne vous coûte rien. Vous n'avez pas à payer de bateau, c'est les autres qui pêchent pour vous. Par contre, vous allez essayer de tirer un petit peu de sous de cette activité. Vous allez dire aux Japonais, aux Chinois, etc., de venir le faire à votre place. Alors là, vous avez le choix entre du bilatéral ou du multilatéral. Ça veut dire quoi du bilatéral ? Eh bien, vous allez négocier avec un armateur japonais et l'armateur japonais négocie avec le ministère des Pêches et va lui donner des sous. Voilà. Le multilatéral, c'est qu'au lieu d'avoir une relation entre un armateur et un pays, vous allez avoir des relations entre un armateur et plusieurs pays. Jusqu'à 82, tout était en bilatéral. Qu'est-ce qui s'est passé en 82 ? En 82, il y a eu un tremblement de terre dans le Pacifique au niveau marin. C'est que la flotte de seineurs qui était des États-Unis qui étaient sur la côte équatorienne et sur la côte mexicaine, ils se sont fait chasser. Ils sont arrivés à 80 bateaux au Salomon et en Papouasie. Et ils se sont dit, les Américains n'avaient pas reconnu le droit de la mer. Ils disent, les zones économiques exclusives, ça n'existe pas. On va donc aller pêcher chez ces gens qui sont... c'est des petits pays indépendants, mais enfin bon, les Américains les méprisaient un petit peu. Et ces gens-là ont pris des mesures considérables, c'est-à-dire qu'ils ont arraisonné deux bateaux américains. Ils ont fait un embargo. C'était Ronald Reagan à l'époque qui était président, il a failli manger sa petite cuillère de rage. Et il a fait un embargo sur les Salomons. Et là, les Salomonais et les Papous se sont dit, c'est le pot de fer contre le pot de terre. On va donc essayer de se défendre, on va aller chercher des lawyers américains, des hommes de loi. Ils ont été chercher un spécialiste du thon qui est à Hawaï, qui s'appelle David Doulman, et ils ont dit, David, est-ce que tu peux nous aider ? David Doulman a été chercher les meilleurs avocats américains. Ils ont attaqué les armateurs américains et ils ont gagné leur procès. Ils ont obligé les armateurs américains à payer au départ 5% de la valeur des captures en royalty. Et vous aviez 85% qui étaient distribués au pays dans lequel la pêche a été faite. Et 15% de ces royalties étaient distribués aux autres pays, même si aucun thon n'avait été pêché par les seineurs américains dans leurs eaux. À cette époque-là, moi j'étais au service des pêches du Vanuatu. On recevait plus d'argent par cet accord multilatéral que par les accords bilatéraux qu'on avait avec les Taïwanais qui nous rapportaient rien du tout. Donc il faut absolument essayer d'avoir du multilatéral. C'est ce que j'ai mis là, le FFA, c'est Forum Fishes Agency. Agency, c'est l'agence des pêches du Forum du Pacifique Sud qui se trouve au Salomon et qui est actuellement l'organisme qui gère tout ça. Actuellement, sur tous les seineurs qui opèrent dans leurs eaux, vous avez un observateur, vous avez une balise Argos, et tous les jours, on sait où est le bateau. Tous les jours, on sait ce qui est capturé. Et en gros, un jour, il faudra arriver à une surveillance par satellite, un peu ce que les Français font aux îles Kerguelen. Quand vous savez les bateaux qui sont en mer et que vous voyez sur votre radar des bateaux qui ne sont pas répertoriés, ça veut dire que ce sont des bateaux pirates. Et donc, si vous avez là une frégate dans le coin, eh bien, c'est ces gens-là qu'il faut arraisonner. C'est comme ça, par la police des pêches, que vous allez réussir à protéger vos stocks. Alors, l'accord de Nauru, c'est quoi ? L'accord de Nauru, eh bien, c'était des gens, malheureusement, qui sont un petit peu, qui se sont dit 85%, c'est bien, mais il y a 15% pour des gens qui ne voient jamais de bateau américain, c'est pas bien. On veut garder les sous pour nous. Alors, l'accord de Nauru, c'est un accord entre les pays qui sont autour de l'équateur. Papouasie, Fédération de Micronésie, Nauru, Kiribati, Tuvalu, les îles Marshall, les Salomon. Et ça marche pas bien. Parce qu'ils n'ont pas l'efficacité des gens du FFA. Et je terminerai les nouveaux enjeux. Ben, les nouveaux enjeux, c'est quoi ? C'est que le réservoir à thon dans le monde reste là. C'est le Pacifique. Les gens ont montré dans le Pacifique qu'ils n'étaient pas capables de capturer eux-mêmes le thon. Ils le font donc capturer par d'autres. Et donc, il faut essayer de rendre la rente au maximum. L'accord des pêches avec le FFA marche. Mais les gens ont tendance à vouloir travailler ensemble. Or, on est actuellement dans une arrivée de nouveau des Asiatiques, notamment la Chine populaire, qui n'était pas du tout présente dans le Pacifique, commence à arriver massivement, parce que pour les Chinois, il est absolument indispensable d'assurer la sécurité alimentaire de leur pays. Et donc, ils sont en train de créer des bases Notamment, il y a une base qui est en train de se mettre en place au Vanuatu. Il y a des bases aussi qui sont... Il y a des négociations avec les États fédérés de Micronésie. Vous avez aussi les Européens qui sont là. Vous avez une flotte espagnole qui était dans l'océan Indien. Avec la piraterie dans la Somalie, les Espagnols ne peuvent pas faire comme les Français. Les Français, eux, ils mettent des commodos marines sur leurs bateaux. La Constitution le permet. L'Espagne ne permet pas ça. Donc les bateaux espagnols ne pouvant être protégés, les gens ont shifté sur le Pacifique en partie. Et vous avez des bateaux espagnols qui sont maintenant en Micronésie. Donc vous avez de plus en plus de bateaux étrangers qui arrivent parce que c'est vraiment... Le ton est là encore. Et vous avez, comme je vous le dis, les bonites... Ben, pour l'instant, ça va. Mais si vous avez beaucoup de seineurs qui pêchent des centaines de tonnes tous les jours, ça sera pas bien. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'écouter la conférence de Gilbert David, géographe et directeur de recherche IRD au sein de l'Espace DEV à Montpellier. Cette conférence a été enregistrée à l'Alcazar le mois dernier. Prochain rendez-vous le 23 novembre à 16h, toujours à l'Alcazar. L'IRD recevra Olivier Danglès, écologue, pour une conférence titrée « Des Galapagos aux Paramos, enquête naturaliste ». Pour ne rater aucune des conférences de l'IRD, retrouvez-les sur le site de Radio Grenouille.